cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Takenori Nemoto.
Bonjour.
Alors, vous êtes Takenori Nemoto, corniste, chef d'orchestre, compositeur, enfin, multiples casquettes, donc on évoquera peut-être tout à l'heure. Mais le centre, on va dire, de notre conversation, le sujet pour lequel on voulait vous faire venir dans notre studio de cobuzz, c'est le festival Musica Nigella,
oui,
dont vous êtes le directeur artistique.
Tout à fait.
Festival donc, qui est né, je crois, en 2006.
2006, tout à fait. Oui.
Et dont la sixième édition donc, se déroulera cette année du 1er au 5 juin,
oui,
dans 10 communes du Pas-de-Calais, une commune dans la Somme. Et donc aura pour thème cette année Histoire naturelle au pluriel. Il y aura 14 concerts, 4 expositions, une quarantaine d'œuvres, dont 3 créations mondiales.
Tout à fait.
Alors parlez-nous peut-être un petit peu avant de détailler un peu l'édition, la QV 2011, de nous parler un peu de ce festival, comment il est né. Je crois qu'à la base, c'était à l'origine, il y avait l'association.
Tout à fait, il y a toujours l'association Phonie qui organise, donc qui est organisatrice de ce festival. Et en fait, l'association Phonie. Existe depuis 1996. Donc, c'est Olivier Carreau, donc le président du festival, qui avait monté à Paris. Donc, c'est une association parisienne à l'origine et qui organisait des concerts de musique de chambre à Paris dans différentes salles de concert à Cortot, Gaveau, pour des jeunes musiciens. Sortant du CNSM de
voilà,
Paris.
Voilà, préciser que c'est un peu quand même l'axe central de toute...
Tout à fait. Au début, c'était ça. Donc, à l'époque, j'étais encore un petit peu plus jeune. Et je venais de terminer mes études au conservatoire. Après, je suis retourné pour faire le perfectionnement. Mais entre-temps, c'est vrai que je cherchais un petit peu à faire... découvrir mes collègues musiciens qui avaient mon âge, qui avaient un certain bagage, mais qui n'avaient pas encore, qui n'étaient pas encore tout à fait dans le circuit et qui cherchaient évidemment à se produire. Et du coup, on s'est dit peut-être on peut faire quelque chose pour vous. Donc, on a programmé des musiciens comme Emmanuel Bertrand, Cédric Thiberguien. À l'époque, ils n'étaient pas encore connus parce qu'ils n'avaient pas encore eu leur récompense internationale. Mais je connaissais leur qualité artistique et je leur faisais confiance, évidemment, en programmant ces gens-là. Et donc, on est quelque part un peu fiers, non pas d'avoir lancé, parce que ce n'est pas nous qui avons lancé ces musiciens-là, mais d'avoir découvert leur talent avant l'heure. Voilà. Et du coup, on a organisé jusqu'en 2000 pas mal de concerts, à peu près un concert par mois. Donc, c'était un peu lourd. Étant donné qu'Olivier est médecin et donc il a son cabinet, moi je faisais déjà des concerts, j'étais pas encore dans les orchestres, mais c'était un peu lourd. Alors du coup, c'était difficile. Et ensuite, à Paris, c'est un petit peu saturé niveau offre. Il y a énormément de concerts à Paris et on s'est dit, on va peut-être changer un petit peu d'idée. Donc on a essayé d'organiser un week-end musical dans le Pas-de-Calais en 99. Donc c'était la première fois qu'on faisait une grande manifestation là-bas avec deux concerts. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Ça a beaucoup plu aux gens, aux mélomanes de la région. On s'est dit, peut-être on a quelque chose à faire dans cette région-là. Il faut donc, juste en parenthèse, Olivier avait sa maison sur la côte d'Opale, donc à côté de Berck, depuis une dizaine d'années. Et il était déjà attaché à la région. Et on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres à l'époque, en tout cas au niveau musique classique. Et comme ça qu'on a décidé d'organiser des concerts là-bas. Donc on a fait quelques concerts par-ci, par-là, en quintette, trio, etc. Et en fait, on a beaucoup cherché les lieux. C'était le cas déjà à Paris. À Paris, c'était difficile d'avoir une salle idéale pour la musique de chambre, c'est-à-dire pas trop grande, où il y a un peu d'atmosphère intimiste pour apprécier cette musique, parce qu'on en avait un petit peu marre d'entendre les concerts de musique de chambre dans les grandes salles parisiennes, que ce soit aux Champs-Élysées, au Châtelet. Bien sûr, ce sont des grands noms de musique classique qui se produisent, mais en même temps, on était trop loin des interprètes et on n'avait pas cette proximité qu'on a envie parfois de chercher dans ce genre de musique. Et donc finalement, on a fait des concerts dans les églises, dans la région du Pas-de-Calais. Et en fait, Olivier a eu l'idée de créer ce salon de musique dans sa maison, dans sa petite fermette picarde, donc ouvrir la cour qui était là pour faire un grand salon de musique. Comme ça qu'il a commencé à faire toutes les démarches administratives qui sont évidemment un peu compliquées dans ce cas-là. Et il a réussi à avoir toutes les autorisations en 2005 et on a commencé les travaux pour faire ce salon de musique. Et le festival est né dans ce salon de musique. Donc, c'est-à-dire, on a dit au début, on fait vraiment de la musique de chambre, éventuellement des mélodies, des choses comme ça, mais c'était à la base, c'était vraiment une petite formation de musique de chambre, et le lieu s'y prêtait vraiment. C'est-à-dire, c'est un grand salon qui fait 120 mètres carrés, les gens sont assis dans les fauteuils, canapés, ils encerclent un petit peu les interprètes, donc on a une écoute assez favorisée, assez exceptionnelle pour la musique de chambre, et comme ça que le festival est né. Alors après, c'était en 2006, donc on a fait la première édition, c'était en tout petit comité, on lançait l'idée, et au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a eu des demandes dans la région, que ce soit le musée d'Opale Sud ou les comités de communes, qui voulaient qu'on élargisse un petit peu le festival, parce que les gens d'abord n'osaient pas venir dans un salon privé, parce que ils avaient déjà une idée de musique classique qui est un peu guindée, un peu élitiste.
Vous avez évoqué le problème au début de Paris, où l'offre est trop importante, voilà. Où là vous retrouviez finalement dans une région presque sinistrée au niveau de l'offre.
Exactement.
Comment justement, est-ce qu'il y a justement ça aussi, j'imagine, qui est excitant, c'est-à-dire de se produire devant un public qui peut être intéressé,
tout à fait,
qui n'est pas saturé ou blasé parce que, comme vous dites, il y a entre toutes les salles parisiennes et tout.
Tout à fait. Donc, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'au début, il y avait des gens qui venaient simplement parce que c'était des amis, donc c'est par amitié, par connaissance, par peut-être curiosité aussi. Mais en fait, il y a des mélomanes avertis dans la région qui attendaient que ça se passe, évidemment, parce que il n'y avait pas vraiment de la possibilité d'aller dans des concerts de musique de chambre de haut niveau sans aller jusqu'à Lille, Amiens, éventuellement à Paris, parce qu'il y a énormément de gens de la région qui se déplacent jusqu'à Paris, parce que c'est quand même à 200 km, donc ce n'est pas non plus très très loin. Et sinon, il y avait des néophytes qui ne connaissaient pas du tout la musique classique et qui reviennent. Et un jour, on a posé la question à un agriculteur du village qui venait régulièrement. Il dit, mais ne viens pas par obligation, parce qu'on ne va pas te dire, il n'était pas venu, tu es puni. Donc, ne viens pas pour ça. Et il a dit, non, pas du tout, mais je ne connaissais pas du tout cette musique-là. Mais grâce à vous, moi, j'ai découvert. Et donc, je suis très content de revenir. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on...
C'est le plus beau cadeau pour vous.
Oui, c'est ça. C'est une récompense pour nous de savoir que finalement, on peut apporter de la musique partout et que on a encore des gens à qui on peut faire des choses. Voilà.
Alors finalement, toute cette démarche qui se transforme en festival, un festival dit périodicité, une programmation, des thématiques, etc. Donc là, cette année, on arrive à la sixième édition. Donc intitulé Histoire naturelle. Alors comment se passe justement à chaque fois le choix? Comment on construit
Pour le thématique,
saison,
tout à fait. En fait, au début, première édition n'avait pas de thème. Donc c'était informel, vraiment plus qu'informel, parce que j'ai demandé à mes copains de me donner quelques idées, et puis de décider ensemble un peu ce qu'on avait envie de jouer. C'était vraiment... à la bande flanquette. Et en fait, après, je me suis dit, Là, il faut qu'il y ait une spécificité dans mon festival, puisque bon, il y a quelques gens connus qui viennent, notamment comme Marie-Céline Barrault, il y a Marie-Joseph Jude qui a joué dans la saison, tout ça. Mais en fait, ce qui, que je privilégie, c'est plus l'entente entre les musiciens qui viennent, donc ce sont des copains qui ont l'habitude de jouer ensemble ailleurs, soit en quatuor, soit en orchestre. Et donc, je me suis dit, il faut quand même donner une ligne directrice dans le thème qui peut se distinguer par rapport à d'autres festivals qui existent. Parce qu'il y a des festivals qui ont plus de moyens financiers que nous, qui peuvent appeler les agents des grands interprètes internationaux et de programmer des choses très connues. Moi, je ne voulais pas faire ça, de programmer. Bien sûr, il y a des très belles musiques dans le répertoire connu de Chopin, Beethoven et compagnie, et je programme aussi dans mon festival. Mais pour moi, c'était important de mélanger des choses connues et moins connues, musique classique et contemporaine, création, musique baroque, et éventuellement d'autres domaines comme cinéma. On a fait cinéma muet l'année dernière. La danse, on a voulu faire cette année. Bon, c'était un petit peu juste, donc on fera ça un peu plus tard. Mais voilà, il y a des choses qui se font, et le choix de thème se fait un peu par hasard. Comme l'année dernière, on a fait le thème un peu lourd. Pour moi, c'était pas lourd, mais les gens ont trouvé ça un peu lourd, la vie et la mort. Du coup, on s'est dit, cette année, on fait un thème un peu plus léger. Donc, voilà. Ça se fait. Voilà.
C'est une formule qui se vend mieux que la vie et la mort.
Oui, c'était un peu étonnant parce que pour moi, parce que les gens ont fait des remarques en disant, oui, bah, la mort. Mais non, écoutez, il y a d'abord la vie. Donc, voilà. Donc, il y a la vie et la mort, et les deux sont indissociables. Donc, ce sont des choses qui sont. Mais en fait, j'avais marqué ça dans ma note d'intention artistique l'année dernière. En Occident, on a d'abord une vision de la mort qui est la fin de quelque chose, et donc qui est un tabou, qui reste un tabou. En Asie, ce n'est pas du tout le cas, parce que dans le bouddhisme, on parle de réincarnation, de la vie, et quelque part le début de recommencement. Donc voilà, mais j'essaie de ne pas renier mes origines et d'apporter quelque chose par rapport à mes origines. Voilà. Donc le thème se fait un petit peu au hasard. Voilà.
Alors comment s'est construit justement, donc plus précisément, cette saison, cette année, les temps forts dans ces... peut-être pas passer en revue les 14 concerts,
oui,
et les 40 œuvres, etc.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous metteriez un petit peu en exergue de cette
Alors déjà, quand on a décidé ce thématique, donc y avait des choses un peu évidentes comme Pierre et Loulou, Baba, La Truite de Schubert, 4 saisons de Vivaldi. Et après, j'essaie de improviser un petit peu autour de ces grandes œuvres, des choses qui peuvent se rajouter, qui peuvent avoir une cohérence par rapport à ce que je propose. Donc, quand j'avais décidé de programmer 4 saisons, pour moi, c'était pas intéressant de proposer 4 saisons telles quelles. Parce que bon, tout le monde connaît, tout le monde, ça se programme partout, bon, ça se joue tout le temps. Et du coup, j'ai eu cette idée de faire 3 saisons de Vivaldi. Le printemps était l'automne, et ensuite de mettre le Voyage d'hiver de Schubert comme 4e saison, et demander à Yoshi Oida justement de mettre en scène ce cycle de mélodies. Il avait déjà fait donc une version en Mexique avec 5 chanteurs et piano. Et du coup, cette année, on essaie de faire une nouvelle version avec 3 chanteurs et un ensemble de 8 musiciens. Einmal rückwärts hin, möchte ich
zurücke wieder wand von ihrem Hause still ich bin. Möchte ich zurück wieder wagen von ihrem Hause still stehen? Möchte ich zurück wieder wagen von ihrem Hause still stehen? Von ihrem Hause still stehen?
Donc, comme vous avez dit effectivement, en termes d'éclectisme, ce que vous vouliez au début, c'est vrai que les compositeurs, ça va de. Gérard de Schubert à Ligeti,
oui.
De Takemitsu à Debussy, enfin c'est vraiment voilà. Le 360 degrés quoi.
Tout à fait, parce que
plus des compositeurs contemporains. Donc
voilà, des exactement des créations. Créations, on a toujours fait des créations. L'année dernière, il y a 2 créations. Cette année, 3. Et en fait, on a donc ce concert baroque dimanche matin, mais je ne voulais pas du tout faire purement baroque parce que d'abord voilà, c'est assez banal. Et je voulais justement proposer un peu de choses contemporaines, dont Ligeti, mais aussi Jean Français, qui est certes un compositeur du XXe siècle, mais qui a un style quand même assez particulier, parce que c'est très académique, très tonal, mais c'est quand même un des compositeurs français les plus joués dans le monde, et qui représente un petit peu l'esprit à la française à l'étranger. Or, en France, il est un petit peu puni parce que son style est trop classique. Et donc, je programme son œuvre un sectarium, donc dans le thème évidemment de l'histoire naturelle, et j'ai passé la commande à Régis Campo pour qu'il décrive une pièce pour le trio baroque. C'est-à-dire, je lui demandais d'écrire pour 2 violons baroques, un violoncelle baroque et clavecin. Donc, c'est un trio typiquement baroque. Mais il va utiliser la possibilité des instruments baroques, donc d'abord la sonorité, et aussi les contraintes des cordes en boyaux et autre chose pour écrire quelque chose de contemporain, mais avec une formation qui existe depuis plusieurs siècles. Donc ça aussi, c'est d'élargir la possibilité, d'élargir les horizons, de proposer des choses de Rameau à Régis Campo.
Il y a un élargissement qui va même jusque dans les personnalités, puisque vous avez cité tout à l'heure Marie-Christine Barrault, oui. Il y a Eric Orsena.
Tout à fait.
Qui
fait une conférence en amont, tout à fait, hein, le 24 mai à Otuké. Et donc on essaie toujours d'inviter des personnalités, mais pas uniquement, c'est pas entre guillemets un cacheton, il vient parce que bon, voilà, on lui demande, mais on monte le projet ensemble. L'année dernière, quand on a fait l'Arlésienne avec Marie-Christine, on s'est vu plusieurs fois en amont. Elle m'a présenté le texte qu'elle avait de Jean-Claude Carrière. Et ensuite, le texte qu'elle a rajouté sur le texte de Jean-Claude, et de dire comment on peut découper la musique par rapport à ce texte. Et on a discuté, est-ce qu'on peut faire ça, même à la première répétition sur place, on a changé plusieurs choses, parce que finalement, Marc-Gilles disait, ah non, ça va pas, découpage ne va pas dans cet endroit-là. Donc c'est vraiment une collaboration. Donc ce que j'aime bien dans ce festival, c'est qu'il y a vraiment une collaboration, c'est pas quelque chose que j'impose aux artistes, mais il y a toujours une idée de collaborer, de monter dans un projet ensemble, mais pendant un an, c'est-à-dire les musiciens commencent à parler de l'édition 2012 en disant peut-être quel est le thème l'année prochaine, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce que on programme ça, alors dans ce cas-là on peut jouer ça, et donc c'est vraiment un laboratoire d'idées que j'aime bien. C'est un peu pour moi de revivre l'époque de Ravel et Debussy qui se réunissaient dans la réunion des Apaches dans le 16e et présentaient leur dernière création au piano et en donnaient chacun nos idées, nos opinions. Et voilà, c'est pas seulement ces 5 jours de festival, mais c'est toute l'année, on discute, les gens me demandent, les musiciens demandent la période du festival, c'est comme ça change d'une année sur l'autre, quand est-ce qu'il y aura lieu, alors donc je bloque les dates, vous avez vu qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont à l'étranger, Donc, notamment Lisa Schatzmann, qui est violon solo à l'Orchestre symphonique de Lucerne, elle m'a demandé dès la fin de l'année dernière de lui donner la période pour qu'elle bloque, qu'elle prenne le congé à l'orchestre pour qu'elle puisse venir. Ça, voilà. Donc, c'est vraiment une sorte de réunion des artistes qui veulent monter des nouveaux projets et de faire des essais artistiques. C'est vraiment ça. Voilà.
Et alors donc de ce festival aussi est né l'année dernière un ensemble du même nom, Musica Nigella, que vous dirigez.
Tout
ça permettra de faire ensuite peut-être une transition sur vous, votre parcours. Cet ensemble s'est fait aussi, j'imagine, un peu naturellement finalement.
Tout à fait, voilà. Parce qu'en fait, depuis le début, donc depuis 6 ans, finalement, il y a des mêmes musiciens qui reviennent. Bon, il y en a d'autres qui se rajoutent. Voilà. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi ne pas monter un ensemble, parce que c'est dommage de ne jouer ensemble que pendant la période de festival. Or, on a envie de continuer à jouer ensemble. Et donc, on a décidé l'année dernière de monter cet ensemble-là. Et finalement, le hasard fait que on a pas mal de projets, parce que l'année dernière, on a vu 3-4 séries, dont une collaboration avec, coproduction avec la Péniche Opéra. À Fontainebleau, au théâtre de Fontainebleau, on a monté donc l'opéra de Donizetti, Rita, qui va sortir d'ailleurs en DVD en juin. Donc c'était capté en live. Et finalement, le voyage d'hiver, par exemple, de cette année, qu'on monte avec Yoshio Ida et Jean Kalman, ça va être repris l'année prochaine, au mois de février, à l'Athénée, Théâtre Louis Juvet, dans la saison. Donc, il y a d'autres coproductions en vue avec la Péniche Opéra. Nous, on va faire aussi un concert juste après le festival au Touquet pour les sinistres du Japon, pour le tremblement de terre. Et donc, on essaie quand même de faire plusieurs concerts comme ça dans l'année, ce qui n'est pas toujours facile, parce que les jeunes ensemble égale pas de moyens. Et déjà, moyens financiers, mais aussi moyens administratifs, parce qu'il n'y a pas d'administrateur, parce qu'on n'a pas encore, on n'est pas suffisamment structuré pour avoir quelqu'un en permanence. Donc, pour l'instant, c'est moi qui fais tout. Alors, évidemment, je monte le contrat de session, le contrat pour les musiciens. Du coup, les ordinateurs ne comprenaient pas très bien que je sois à la fois chef d'orchestre, administrateur et directeur artistique. Mais bon, j'espère que d'ici quelques années, la situation sera un petit peu plus professionnelle et plus facile pour moi de gérer. Parce que même pour le festival, pour l'instant, c'est très, très dur à réconcilier avec ma carrière.
Voilà. Ouais, Nemoto, on a un peu fait là, le parcours, j'allais dire presque à l'envers, puisqu'on a parlé de vous en tant que directeur artistique de ce festival, on parle de vous en tant que chef d'orchestre d'une certaine manière de cet ensemble. Mais à l'origine, vous êtes musicien, vous avez commencé, avant d'ailleurs de choisir le corps, vous aviez fait du violon et du piano.
Oui.
Et qu'est-ce qui fait qu'à 15 ans, soudainement, on s'oriente vers le corps, qui est un instrument quand même qui, en général, n'a pas tendance à attirer les foules de...
Oui, c'est sûr. Alors, en même temps, au Japon, il y a...
Vous aviez une révélation, c'est que par rapport à une œuvre, vous avez vu, c'était lors d'un concert.
Non,
qu'est-ce qui vous a fait choisir ce instrument?
En fait, d'abord, quand j'ai commencé la musique, donc à l'âge de 3 ans, c'était parce que justement, mes deux grandes sœurs faisaient de la musique, donc du violon et du piano. Et donc, je voulais faire comme elles. La motivation n'était pas très, très artistique, mais j'ai commencé, et puis j'ai continué jusqu'à l'âge de 10 ans, et après, j'ai arrêté parce que j'aimais beaucoup jouer de l'instrument comme tous les gamins, mais je détestais travailler. Donc j'ai arrêté. Et puis finalement, j'ai entendu un concert de Ivo Pokolelic à la radio quand j'avais 13 ans. Et c'était pour moi une révélation, mais extraordinaire. C'était le Gastroi de la nuit de Ravel. Et j'ai dit à ma mère, mais je veux recommencer le piano.
Je crois que vous alliez nous révéler qu'il avait fait une version pour quoi.
Et donc, ma mère me dit, bon, très bien, tu peux recommencer. Par contre, cette fois-ci, tu travailles. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je travaille. Donc, je recommence le piano à 13 ans. Et en fait, à l'école, dans les écoles au Japon, il y a obligatoirement une harmonie. Un orchestre d'harmonie à chaque école avec un parc instrumental. Donc n'importe qui peut commencer un instrument avant parce qu'on peut emprunter des instruments à l'école. Et donc cette activité extrascolaire est obligatoire. Et moi, je voulais devenir peintre, artiste peintre. Donc, je voulais rentrer dans un club de peinture à l'école. Et j'allais voir comme ça ce qu'ils faisaient après les cours. Et en fait, le club était fermé ce jour-là. Et il y a un copain en France qui était là, qui dit « Oui, je voulais aller voir l'harmonie, mais je n'ose pas aller seul, tu ne veux pas venir avec moi ?» J'ai dit « Oui, bah bien, il n'y a pas de problème, je viens avec toi, etc. » Et je viens, donc c'était à l'école secondaire, et en fait, comme il y avait très peu de gamins qui voulaient faire l'harmonie, ils étaient un peu pris en otage par les gens de l'harmonie. Ils disent « Tu veux faire quoi comme instrument ?» En plus, comme je faisais déjà de la musique, pour eux, c'était une offre extraordinaire. Donc, il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Bah, je sais pas, je ne connaissais pas grand-chose en enseignement avant. Je dis « Trompette ». Et il y avait trois demandes à la trompette. Alors, je lui dis, tu veux pas faire du corps ? Je dis, je sais pas, je connais pas trop, mais pourquoi pas ? Et je rentre à la maison et je parle avec ma sœur qui était à la faculté de musique à l'époque. Et il dit, je sais pas, on me propose le corps, qu'est-ce que tu en penses ? Il dit, c'est super, c'est un instrument super, vraiment, il faut que tu fasses le corps. Moi, j'ai des copains cornistes, non, c'est vraiment super, donc il faut que tu fasses le corps. Alors, donc, je lui dis, je veux bien faire le corps. Et donc, j'ai continué, je suis rentré dans l'harmonie et à 15 ans, j'ai vraiment décidé d'apprendre le corps.
Et comment vous réagissez par rapport au fait, même si effectivement on peut trouver du corps de Haydn à Varèse, qu'on se retrouve évidemment quand même par rapport aux partitions, par rapport à... Est-ce que vous avez foncé tête baissée, vous avez...
Non, en fait, après, c'est vrai que j'ai commencé à écouter les disques de corps, donc les concertos de Mozart, de Haydn, et je suis tombé sur un disque de Günther Regner. C'était le corps solo de Vienne, qui jouait sur un corps viennois, et c'était Böhm qui était à la direction. Et c'était extraordinaire, vraiment c'était extraordinaire. Je me suis dit, on peut faire ça avec le corps. Alors pour moi, le corps, un instrument de cuivre, c'était un peu l'harmonie, donc on faisait beaucoup de choses un peu bruyantes. Mais en fait, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, on pouvait vraiment faire de la musique avec. Et comme ça que je me suis dit, je dois faire des progrès dans cet instrument-là. Et si je veux jouer comme lui dans le disque. Et donc, j'ai commencé vraiment à travailler sérieusement. Donc, j'allais avant les cours à la salle de musique pour travailler. Après les cours, évidemment, il y avait des activités. Et puis, à 15 ans, j'ai décidé vraiment de devenir professionnel. Donc, j'étais au lycée. Et ma sœur me dit, pourtant c'est elle qui m'a poussé à choisir le corps. Mais elle me dit, mais surtout, fais pas ton métier. Parce que j'ai des copains qui galèrent, donc c'est pas forcément un bon choix. Donc fais-toi plaisir en faisant de la musique, mais ne fais pas ton métier. Alors je me dis, donc j'ai réfléchi pendant 15 jours, est-ce que je veux faire, est-ce que je veux pas faire, etc. Et puis finalement, au bout de 15 jours, j'étais toujours convaincu que je voulais faire mon métier. Donc je dis à ma sœur, je suis désolé, mais je veux vraiment faire du corps comme mon métier. À ce moment-là, elle me dit, très bien, je te présente quelqu'un, un bon prof, pour que tu puisses continuer à progresser. Et comme ça que j'ai rencontré un corniste qui était corps solo de Métropolitain de Tokyo, qui était mon premier prof professionnel. Et comme ça que j'ai commencé à travailler sérieusement le corps. C'était vraiment le hasard, pur hasard.
Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement.
Thank you.
Baba a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. Il s'amuse à creuser le sable avec un coquillage.
Et au niveau de votre formation, votre éducation musicale, donc vous êtes arrivé en France, quel âge aviez-vous quand vous êtes...
J'avais 23 ans.
23 ans, oui. Comment s'est passée justement, j'allais dire, la transition en termes d'appréhension de la musique, par rapport à où vous en étiez dans votre parcours et dans...
Alors en fait, moi j'ai fait mes études d'abord à Tokyo, donc je suis rentré à la faculté de Tokyo, parce qu'il n'y a pas de conservatoire au Japon, ce sont des facultés de musique. Je suis rentré donc à l'âge de 19 ans, donc j'ai fait mes études, et ensuite... Je suis rentré comme stagiaire à l'Orchestre métropolitain de Tokyo, comme corps solo assistant. Mais j'avais toujours une sensation de manque, c'est-à-dire j'avais l'impression de ne plus faire de progrès, or j'avais la possibilité de faire des progrès. Donc soit je continuais parce que j'avais une place quand même en or à l'époque, les jeunes cornistes n'avaient pas forcément un poste tout de suite, et finalement j'ai fait une académie de musique à Kyoto, c'est une sorte de stage qui dure 15 jours à Kyoto avec les professeurs du CNSM de Paris, du Conservatoire de Paris. J'ai rencontré Giorgio Barbotu, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, et qui était prof de cor. Et j'ai vraiment trouvé extraordinaire sa façon de procéder, bien qu'il ne puisse plus jouer le cor, parce qu'il était trop âgé, il était déjà à la retraite. Une façon de parler de la musique m'a beaucoup plu. Et à la fin de stage, il y avait un concours, donc tous instruments confondus, et j'ai gagné le troisième prix. Il me dit, vous ne voulez pas venir travailler avec moi en France? Je lui ai dit, ben, je veux bien, mais je ne parle pas un mot de français, je n'ai pas de sous, donc il faut que je trouve d'abord des sous, et puis j'apprenne un petit peu le français. Donc il me dit, très bien, je vous attends l'année prochaine. Donc je commence à apprendre le français, une fois par semaine pendant 9 mois, donc ce n'était pas beaucoup. Et ensuite, je me suis présenté pour la bourse du gouvernement français pour les étudiants. Et pour la musique, il n'y avait qu'une bourse par an. Donc c'était...
Un peu limité.
Enfin, un petit peu limité. Et j'avais un copain violoniste qui était déjà en France et qui était déjà entré au conservatoire. Je savais qu'il se présentait. Donc je me suis dit, bon, c'est pour lui, mais qui tente rien n'a rien. Donc je tente le coup. Finalement, la présidente du jury était Henriette Puigroger, une grande organiste, compositrice, qui, après la retraite en France, enseignait au Japon, dans ma faculté. Donc j'avais des cours de musique de chambre avec elle. Et pendant la délibération, elle dit aux membres du jury, cette année, on va distribuer 2 bourses. Et je prends la responsabilité sur moi, De négocier avec le gouvernement, donc le ministère des Affaires étrangères, mais on ne peut pas ne pas envoyer Takenori en France. Donc voilà, on va regretter plus tard, donc on va distribuer 2e bourse pour Takenori. Et comme ça que j'ai eu la bourse, et je suis arrivé en France. Donc c'était grâce à elle que je suis là, voilà.
Comment est entré en vous, j'allais dire, les deux autres facettes? On a parlé un peu de la direction. Et un autre chapitre qu'on n'a pas encore abordé, c'est la composition. C'est-à-dire que donc là, vous étiez plus sur le parcours d'un soliste, j'allais dire, d'un instrumentiste.
Tout à fait, voilà.
Est-ce que c'est des choses qui se sont venues pareil un peu par hasard? Est-ce que vous aviez déjà en vous des velléités de direction?
Oui, en fait, à la faculté, j'ai fait 3 classes, donc direction, écriture et corps. En fait, comparé au système de conservatoire, la faculté de musique au Japon, c'est un peu plus global. C'est-à-dire, vous avez une spécialité, donc c'est le corps, par exemple, pour moi. Mais après, il y a aussi la possibilité d'apprendre autre chose. Donc moi, j'ai fait la classe de l'écriture, harmonie contrepoint, direction d'orchestre, orchestration. Donc j'ai touché un peu à tout. Et musique traditionnelle aussi. Je ne connaissais pas du tout l'écriture de la musique traditionnelle, mais je me suis dit quand même, en tant que japonais, il faut que j'apprenne un petit peu. Et donc, j'ai commencé à composer quand j'étais à la faculté à Tokyo. Et je dirigeais donc l'orchestre de la faculté pendant 12 saisons là-bas. Mais en arrivant en France, et comme ma première préoccupation, c'était quand même de travailler du corps, du coup, j'ai un peu mis de côté toutes les activités, entre guillemets, complémentaires ou secondaires. Et j'ai continué le corps et un petit peu le piano, parce que j'ai continué le piano malgré tout, parce que pour moi c'était important de continuer. Ça donne une vision globale que n'a pas beaucoup de cornistes, en tout cas beaucoup d'instrumentistes solistes. Et piano donne cette possibilité d'aborder la musique dans sa vision un peu plus globale. Et donc, j'ai continué en tant que corniste. J'ai même abandonné le piano après avoir eu un diplôme à l'école normale, parce que c'était impossible de continuer les deux en même temps. Et finalement, c'est revenu par hasard, parce que j'ai eu la commande de l'ensemble Calliope pour la Nuit Blanche à Paris. Et j'ai écrit une pièce, et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, il faut que tu recommences. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à écrire la musique. Et finalement, j'écrivais comme ça petit à petit, à peu près une œuvre par an. Je ne pouvais pas faire plus parce que je n'avais pas le temps. Et au fur et à mesure, finalement, j'ai eu d'autres commandes. Et maintenant, j'ai écrit un peu plus. Voilà, j'ai des commandes un peu plus. Et la direction d'orchestre, c'est quand j'ai monté le festival, je me suis dit, il faut quand même proposer autre chose que la musique de chambre. Et comme ça que est arrivée la musique lyrique. Donc on a monté Carmen, et ensuite Madame Butterfly, et l'année dernière, Le Pauvre Matelot. Et c'est comme ça que j'ai repris la direction. Donc j'ai eu quand même une quinzaine d'années de non-activité, de chef, voilà.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes dans une phase de schizophrénie intense, c'est-à-dire entre le soliste, le directeur musical, au niveau des répertoires, c'est-à-dire de passer de l'opéra au contemporain, comment on arrive à gérer tout ça? Vous avez parlé aussi de tous les à côté, j'allais dire, oui. Administratifs, oui. que vous devez gérer, malheureusement, qui sont incontournables. Comment on arrive à gérer tout ça? Est-ce que c'est votre carburant? Est-ce que...
Pour l'instant, c'est le nerf, c'est le nerf qui tient le coup. Mais en fait, j'ai toujours été un peu touche à tout, parce que même niveau de corniste, je fais plusieurs orchestres. Deux orchestres principaux, c'est les musiciens du Louvre et l'orchestre Poitou-Charentes. C'est deux orchestres totalement différents. Poitou-Charentes, c'est plus orchestre de chambre, évidemment avec des instruments modernes. Musiciens du Louvre, moi, j'ai du corps baroque, naturel, corps à piston 19e, corps à piston 20e. Voilà, donc tout est possible. Et en fait, c'est un côté qui me plaît beaucoup, parce que au moins, ce que je fais est varié. Alors après, jusqu'au jour où je menais la carrière de concertiste, ça allait. Alors maintenant, se rajoute carrière de chef et puis des commandes en tant que compositeur, tout ça. Alors ça devient un petit peu plus lourd. Du coup, je continue à travailler. Après, je n'arrête pas de regarder dans la partition, dans les avions, dans les TGV. Alors évidemment, quand je suis en train de dormir, mes collègues me disaient, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas. Mes collègues ont l'habitude de me voir courir droite à gauche. Donc voilà, c'est un peu difficile, et ce n'est pas toujours idéal.
Ce que je vais vous demander par rapport à la musique elle-même, l'art musical, quelque chose de très intérieur, très personnel, qui évidemment se partage, mais comment on arrive entre d'un côté cette chose vraiment si personnelle et l'autre côté à 360 degrés, 360 à l'heure, de courir dans tous les sens et de passer de...
On y arrive parce qu'on s'y oblige, quelque part, parce que je me souviens quand on a fait cet opéra à Rita à Fontainebleau, la veille jusqu'à 3h du matin, j'étais en train de finir le dossier de subvention pour le conseil régional, donc c'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec l'opéra, et moi j'avais qu'une envie, c'était de regarder la partition, de m'imprégner là-dedans, mais l'obligation fait que c'était pas possible. Mais une fois arrivé sur place, je change complètement, c'est-à-dire je compartimente un petit peu mon cerveau en disant, cette partie de cerveau, j'utilise à tel endroit, et je change. Et j'y arrive pour l'instant, je sens que dans quelques années, si ça continue comme ça, j'y arriverai plus. Donc,
la folie est proche.
Donc, il faut que je choisisse. Je décide de choisir. Alors, j'ai commencé à déjà faire la sélection, c'est-à-dire je privilégie quand même mon ensemble, donc, carrière de chef. J'ai des commandes de composition, donc je sais que certaines périodes, il faut que je les réserve. 15 jours, un mois pour être tranquille à la campagne, de ne pas penser à jouer. Voilà, c'est difficile, mais il y a beaucoup de gens qui mènent des activités un peu diverses, comme Jean-François Verdier, qui est directeur musical maintenant de Besançon, qui a repris le poste de clarinette solo à l'opéra. Il me dit lui-même que c'est impossible de mener deux carrières en même temps. Donc, un jour, il faudra que je fasse un choix. C'est évident. Dans 3 ans, je pense que les choses se feront naturellement parce qu'il y a des priorités qui se manifestent naturellement.
On a l'impression finalement que vous avancez, vous vivez musicalement un peu au jour le jour, en fonction des rencontres, voilà. Et que vous ne vous projetez pas en disant, bon alors en 2015 je vais faire ça, en 2023
non, je vais faire ça, etc. Non, je ne me projette pas du tout aussi loin, parce que c'est impossible d'abord. Et ensuite, à partir du moment où on a décidé de faire plusieurs choses et qui me plaisent, parce que...
Oui, c'est des choix, on ne le sait pas.
Si c'est des choses qui ne me plaisent pas, évidemment, il y aurait longtemps que j'ai arrêté tout ça. Mais je me projette maximum 2 ans en disant, voilà, bon, il y a ça, parce qu'il y a des engagements qui arrivent. Est-ce que je prends pas Bon, il y a ça, donc je ne prends pas, parce que ça, c'est plus important pour moi. Donc voilà, ça se fera naturellement, je pense.
Est-ce que quand il vous reste un peu de temps, il vous reste du temps pour écouter de la musique, autre que celle que vous travaillez, est-ce que...
Écouter la musique...
Pas trop, finalement.
Parfois, oui, c'est plus difficile parce que... Quand j'ai un peu de temps, j'ai envie de ne pas écouter de la musique déjà. Donc,
ou alors des musiques autres que celles que vous jouez peut-être.
Oui, non, j'ai plus envie d'aller à la campagne, toucher la terre, écouter les oiseaux, faire du jardinage, faire la cuisine pour des amis. Voilà, c'est plus ça qui me détend. Voilà.
Bien, eh bien, Takenori Nemoto, merci. Je rappelle donc que la 6e édition du Festival Musica Nigella se tiendra donc du 1er au 5 juin. Le programme complet est consultable sur Qobuz. Merci.
Merci.
En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en cancanant. Beau courir, le loup s'approchait de plus en plus vite, de plus près encore. Il attrapa le canard. Il s'en saisit et n'en fit qu'une bouchée.
Qobuz.com Rencontre par Mark Zisman.